enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
C'est une nouvelle vie. J'aimerais, dans un premier temps, faire un constat avec vous. Je rencontre beaucoup de chrétiens. Cela fait maintenant 18 ans que je suis à plein temps dans le ministère. En 18 ans, j'ai vu non pas des centaines, mais des milliers de personnes. Et j'ai fait un constat que beaucoup ne s'épanouissaient pas toujours forcément comme Dieu voulait qu'ils s'épanouissent. Beaucoup n'entraient pas réellement dans la vie nouvelle que Dieu leur propose. Ce sera le constat que nous ferons. Deuxièmement, je voudrais avec vous voir la raison. L'une des raisons principales que j'ai découvert, eh bien, c'est que beaucoup de croyants ont encore des cœurs brisés. Troisièmement, nous verrons ensemble le processus par lequel ils ont passé et qui, petit à petit, a brisé les cœurs. Nous verrons quatre étapes. Comment les cœurs se brisent. Deuxièmement, comment, suite à un cœur brisé, l'on devient captif de certaines pensées. Troisièmement, comment, eh bien, les pensées captives nous amènent à avoir un fonctionnement qui engendre autour de nous souvent du rejet, mais nous sommes aveugles sur notre propre situation. Quatrièmement, eh bien, comment en finalité nous sommes opprimés, oppressés, alors que Dieu nous a appelés à la liberté des enfants de Dieu. Si Dieu me fait la grâce ce matin de terminer le sujet, je le terminerai ce matin. En tout cas, je ne le traiterai entièrement qu'en deux, voire trois parties. Donc, de toute manière, ce matin, vous n'aurez que cette première partie. Je vous ai donné le menu. Commençons à manger ensemble en ouvrant la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, les versets 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Un deuxième texte dans le psaume 103, psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Jusque-là, la parole de Dieu. Bien des hommes, bien des femmes se tournent vers le Seigneur. Et je dirais qu'il y a tout un temps où, eh bien, ils passent par une forme d'euphorie. Le sentiment que maintenant, ils sont croyants, donc tout est réglé. On a tourné un bouton et automatiquement, tout va changer. Cependant, cette euphorie ne dure qu'un temps. Et je dirais que le retour sur la planète Terre, suivant les situations, est dur. Pendant un temps, l'on s'est nourri de cette espérance vivante que tout va s'arranger. Et je crois que tout s'arrange, mais il y a des processus pour cela. Et je crois que tout s'arrange, mais il doit y avoir une action de Dieu et parfois une prise de conscience de notre propre situation. Certains, après un temps, réalisent tout d'un coup que la déprime revient. D'autres sont confrontés à une profonde tristesse. D'autres voient ce caractère duquel ils espéraient se débarrasser en se laissant baptiser, ce fichu caractère est en train de revenir et de les poursuivre. Quelqu'un disait « chasser le naturel » et il revient au galop. Et ça, c'est le constat de certains. Certains colériques qui s'imaginaient que « ça y est, enfin, je ne me mettrai plus jamais en colère ». Tout d'un coup, les voilà, qu'ils piquent à nouveau des colères. Alors ils regrettent, ils demandent pardon. D'autres boudent sont des boudeurs professionnels. Ils pourraient ouvrir une usine de boudins, tellement ils boudent. Et puis, on est interpellé, mais je suis chrétien. Et pourtant, malgré le fait que je suis croyant, voilà que ces habitudes anciennes reviennent, des attitudes que je regrette, eh bien, reprennent le dessus. Que fais-je? Eh bien, je demande pardon à Dieu. Je me repens, je demande pardon à ceux que j'ai offensés. Mais le sentiment est le suivant, c'est que très souvent, après avoir demandé pardon, au bout d'un certain temps, je me retrouve à la case départ et je suis à nouveau en train de piquer des colères. Vous savez, c'est un peu comme dans le jeu de loi. C'est un jeu qui m'énerve. Parce que moi, je suis toujours doué pour arriver à la fin sur la case retour à la case départ. Si cet oie-là se mangeait à Noël, ça fait longtemps que je l'aurais cuisiné. Et c'est le sentiment qu'ont certains croyants. Seigneur, pourtant je t'aime, pourtant je suis sincère, pourtant lorsque je me suis tourné vers toi, oui, je me suis donné à toi de tout mon cœur, mais qu'est-ce qui a changé finalement en moi? Quels ont été réellement les changements? Au bout de quelques mois, je réalise que ce passé qui m'a fait tant souffrir et qui a fait souffrir d'autres est comme en train de me rattraper, reprendre le dessus. Vous savez, si je devais vous donner une image, c'est un peu comme si vous essayiez de quitter votre passé. Imaginons que votre passé ce soit ce piano et puis vous vous éloignez de lui. Vous voyez, vous êtes venu à Jésus, le passé vous en voulez plus. L'apôtre Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenue nouvelle, amen. Alors, fort de ce verset, on le tient dans notre cœur. Et il est juste ce verset, il est fondamentalement juste. Mais on n'a peut-être pas toujours fait tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se vérifier dans nos vies. On s'éloigne de notre passé, mais vous voyez, il reste un élastique. Puis l'élastique, il est là, lié à notre passé. Alors on s'éloigne, on fait les premiers pas en Christ. Au début, ça va bien. Au début, t'as vu comme j'ai changé, chérie. T'as vu, je me réveille plus tous les matins en hurlant après toi. Alors le mari apprécie. Dit, c'est vrai que t'as changé. C'est vrai. C'est vrai que les assiettes servent moins souvent de frisbee. C'est vrai. T'as changé. Mais, à fur et à mesure que vous vous éloignez de ce fameux passé, l'élastique, lui, se tend. Et au bout d'un moment, vous avez du mal à avancer. Vous avez le sentiment que ce passé est là et vous tire dans le dos. Alors vous faites encore des efforts, mais les efforts ne sont plus les efforts que vous faisiez au départ. Au départ, vous faisiez des grands pas, c'était des grands changements. Mais plus il se tend, plus les changements sont petits. Et à un moment donné, vous avez même le sentiment de ne plus avancer. Pire encore, non seulement vous n'avancez plus, mais vous avez le sentiment que ça vous tire fichtrement en arrière. Et à un moment donné, vous n'en pouvez plus de lutter. Vous êtes tout le temps en lutte. Moi, j'ai des croyants qui me disent, je suis tout le temps en lutte, frère. Je lutte tout le temps. Je suis fatigué de lutter. Au bout d'un moment, fatigué de lutter, l'élastique vous ramène en arrière et vous retournez au point de départ. Et là, vous tapez. Et c'est la déception. Alors, vous vous repentez. Vous dites, chérie, je te demande pardon de t'avoir fait ce que je t'ai fait. Chérie, je te demande pardon pour le dernier frisbee qui est arrivé. Je ne le ferai plus. Et puis vous repartez. Vous êtes décidé, vous êtes sincère, vous êtes honnête au plus profond de vous-même. Puis vous repartez. Mais l'élastique se tend de nouveau. Et ce qui arrive au bout d'un moment, c'est que vous êtes fatigué d'essayer. Il y a un moment donné où vous avez envie de démissionner. Vous vous dites, Moi, je ne veux plus lui demander pardon. Je n'ai même plus le courage de lui demander pardon. J'ai tellement demandé pardon. Et je recommence toujours. Seigneur, tu sais que je suis sincère. Je prie, mais je ne m'en sors pas. J'ai l'impression que c'est génétique. C'est inscrit en moi. C'est à la mode aujourd'hui. Chaque fois que vous avez un défaut, il est génétique. Alors c'est bien, employez tout ce que vous pouvez, vous voyez. Le sentiment de « non, je ne m'en sors pas ». Et là vient le découragement. Et là vient souvent le désert spirituel. Pourquoi ? Parce que cet élastique est toujours encore là. Pourquoi est-il là ? Et ce sera là mon premier point ce matin. Et quelle est la raison qui me ramène constamment dans mon passé ? C'est que très souvent, lorsque je viens à Dieu, j'arrive avec un cœur brisé. L'autre jour, je réfléchissais là-dessus. Jésus nous parle de cœur brisé. Et ce matin, j'aimerais vous demander de me permettre une analogie. Alors que j'étais en train de réfléchir sur ce texte, alors que je demandais au Seigneur ce que l'Église avait besoin ce matin, m'est venue cette analogie. On parle facilement de cœur brisé, mais faisons le parallèle avec un membre physique qui se brise. Que se passe-t-il quand vous vous brisez un bras ? Que se passe-t-il quand vous vous brisez une jambe ? Que se passe-t-il quand vous vous brisez le bassin ? Voire dans certains cas graves, vous vous brisez la colonne vertébrale. Que se passe-t-il ? Soudain, vous êtes en possession d'un membre qui est là, mais qui est inutilisable. Vous ne pouvez plus l'utiliser. En fait, vous vivez un traumatisme. Alors, je me suis dit, allons voir ce que le dictionnaire dit. Et j'ai ouvert mon dictionnaire dans traumatisme et j'ai d'abord découvert le terme trauma. Je ne suis pas médecin. Je laisse aux spécialistes, eh bien, leur travail, mais je suis quand même capable de lire le dictionnaire Hachette. Voilà ce qui est dit là. Lésion ou blessure produite par l'impact mécanique d'un agent extérieur. En psychologie, c'est violent choc émotif qui marque la personnalité d'un sujet et le sensibilise aux émotions de même nature. Et puis, en dessous, vous avez traumatisme. Ensemble des conséquences physiques ou psychologiques engendrées par un trauma, ensemble des troubles de la vie affective et de la personnalité déclenchés chez un sujet par un choc émotionnel. Suite au traumatisme physique, vous êtes handicapé. Pour certains, partiellement. Lorsque vous vous brisez un bras, vous savez que vous allez retrouver l'utilisation de ce bras. Mais lorsque vous vous brisez la colonne vertébrale, dans certains cas, vous restez paraplégique ou hémiplégique. Vous allez donc avoir les membres, mais vous êtes amputé du membre, comme s'il n'existait plus. En fait, vous ne pouvez plus faire les choses que vous les faisiez. Vous voilà tout d'un coup freiné dans vos actions. Vous voilà tout d'un coup incapable de faire certaines choses. Non pas que vous n'ayez pas de bras, non pas que vous n'ayez pas de jambes, mais elle a été brisée. Elle est inutilisable pour l'instant. Mes amis, lorsque, par exemple, une jambe se brise, moi je me souviens lorsque mon dernier Michael, qui est un grand explorateur devant l'Éternel, est allé explorer le Super U qui venait de se vider, il a traversé le plafond et il est passé 3 mètres ou 4 mètres plus bas. Quadruple fracture du pied. Bien. Ça a été terrible pour Michael de réaliser tout d'un coup que ses petits amis pouvaient courir, pouvaient s'amuser, pouvaient faire un tas de choses que lui n'était plus en mesure de faire parce qu'il était brisé dans son corps. C'était également installé en lui une frustration. Une frustration qui, eh bien, simplement se manifestait comme cela, une tristesse venant sur lui parce qu'il en avait assez d'être toujours à l'intérieur et de ne pas pouvoir faire ce que les autres faisaient. Et vous savez, quand vous êtes enfant, au bout d'un moment, vous essayez de précipiter la guérison. J'habite au-dessus d'un kinésithérapeute. Un jour, il m'appelle et me dit « Tiens Sam, viens voir, ton fils, il s'est cassé le pied. » Je dis « Ouais, ouais. » Et maintenant, comment il fait? Ben, j'y marche avec les béquilles. Ah, il dit, ah oui? Ah! Ah ouais, parce que tout à l'heure, je l'ai vu passer à pied avec les béquilles sur l'épaule, tu vois? Oui, des fois, on voudrait accélérer le processus. Mais accélérer le processus, c'est parfois risquer d'aggraver la situation. Mes amis, lorsque vous vivez un handicap physique, s'installe une frustration profonde dans ce sens que vous vous sentez parfois abandonné sur le chemin. Les autres vont plus vite que vous ou les autres peuvent faire des choses que vous ne pouvez plus faire. Seuls ceux qui sont handicapés au milieu de nous peuvent mesurer ce que je dis et le mesurent peut-être beaucoup plus que ce que je suis capable de le dire simplement parce qu'ils le vivent. Tout d'un coup, vous voilà dépendant des autres, suivant la situation. Tout d'un coup, voilà que vous avez besoin des autres. C'est terrible d'être dépendant de quelqu'un constamment. Tout d'un coup, vous perdez une partie de votre liberté. Eh bien, ce qui est vrai physiquement, l'est vrai lorsqu'un cœur est brisé. Quand nous avons été brisés dans le domaine affectif, alors s'installe également en nous un dysfonctionnement qui n'est rien d'autre que le résultat des souffrances et des blessures que nous véhiculons. Chers amis, on est tout d'un coup handicapé intérieurement. Voilà que tout d'un coup, on a dans certains domaines une sensibilité qui est telle qu'elle se traduit par de la susceptibilité extrême, ou alors on devient littéralement insensible. J'ai vu des personnes blessées qui sont devenues extrêmement blessantes. Des personnes blessées qui tout d'un coup devenaient indifférentes à la souffrance des autres. Voyez, quand un corps est brisé, quand un membre est paralysé, j'ai vu ça chez certains hémiplégiques ou paraplégiques, eh bien vous pouvez piquer dans le membre qui est paralysé, il ne sent plus la douleur. Il y a comme une insensibilisation qui s'est faite. De la même manière, lorsqu'un cœur est brisé, vous êtes handicapé, privé de certaines possibilités intérieures. Vous avez peut-être été trahi, et voilà que tout d'un coup vous êtes amputé d'une partie de la confiance que vous étiez capable de faire. Et vous vivez avec cela. Mais ça va vous conditionner. Vous venez à Jésus-Christ, mais vous oubliez que Christ, eh bien, veut en vous faire un processus de guérison et de guérison profonde. Lorsque vous êtes brisé intérieurement, très souvent vous avez le sentiment que les autres vont plus vite que vous. Très souvent vous vous sentez abandonné, incompris, délaissé. Vous commencez à poser des questions à Dieu, pourquoi ? Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi les autres j'ai l'impression que les autres avancent, moi je fais du surplace. Je suis chrétien depuis 10 ans, l'autre il vient d'arriver en 1 an, j'ai l'impression qu'il a plus compris que moi pendant 10 ans. Et cette frustration entraîne en vous un désespoir de plus en plus profond. Tout simplement parce que le cœur a été brisé. Voyez-vous, lorsqu'un membre est brisé, nous le savons tous, il faut un temps de guérison. Il faut un temps où l'on se repose. Il faut un temps où l'on soigne la plaie. Il faut un temps où l'on opère dans certains cas. Où il faut une opération. Michael a dû être opéré. Il a fallu faire certaines choses. Il faut une intervention. Lorsque nous sommes dans un pays où, eh bien, l'on prend soin de veiller à ce que les handicapés soient traités de la meilleure manière possible, on installe des rampes pour que à peu près tout leur soit accessible. En fait, on essaye de leur permettre de vivre normalement malgré leur handicap. D'accord ? Maintenant, malgré tout ce qu'on met en place, ça suffit pas. Ça suffit pas. Nous étions partis en Israël avec un cher frère qui était handicapé, qui était en chaise roulante. Et lorsque j'étais avec lui, il me dit tout d'un coup... Il me dit, mais tu sais Samuel, il y a un tas de choses que vous, qui marchez, qui êtes bien portants, vous ne réalisez même pas. Quand vous, puisqu'on était rentré dans des chambres d'hôtel, il dit, quand toi tu vas au lavabo pour te brosser les dents, et qu'en dessous il y a un meuble où tu peux ranger quelque chose. C'est chouette pour toi. Mais moi, ça veut dire que j'arriverai pas à atteindre le lavabo parce que je peux pas passer en dessous. Quand vous, vos crochets pour accrocher vos manteaux sont à 1m80, c'est bien parce que vous les y mettez, mais moi en chaise roulante, je peux pas l'atteindre ton crochet. Malgré le fait que je vis avec vous, je suis quand même conditionné par mon handicap. Cependant, on peut faire des efforts, on peut améliorer les choses, on peut aménager les choses. Maintenant, ma question ce matin, quand un cœur est brisé, ça se voit pas. Quand tu as la jambe cassée, ça se voit. Tu as un plâtre et tout le monde a signé dessus. Quand tu es en fauteuil roulant, ça se voit. Tu es là avec ton fauteuil et on le sait. On va donc te traiter en conséquence. Mais quand un homme et une femme a le cœur brisé, ça se voit pas. C'est pas marqué ici, cassé. C'est pas marqué HS. Ça va se voir. Et je vais vous dire comment ça va se voir. Cela va se voir au travers de l'attitude qu'elle peut manifester. Cela va se voir au travers de la dépression. Cela va se voir parfois au travers de la violence ou de l'agressivité. Ça va se voir au travers du repliement. Ça va se traduire par un comportement. Oui, le comportement que l'on juge souvent de prime abord en disant « Celle-là, on ne peut pas lui parler. Dès que tu lui parles, elle fait la tête. » Mais peut-être qu'elle fait la tête parce qu'elle a un vrai problème. Le gros problème, c'est que nous, on ne voit pas qu'elle a un problème. Parce que tout se passe dedans. Et ce n'est pas écrit sur son front. Alors on la juge. On la juge sur ses réactions. Mais on n'essaie pas de comprendre pourquoi elle réagit comme ça. On n'essaie pas de comprendre pourquoi il a cette attitude-là. L'attitude et le comportement, eh bien souvent à sa base, une racine et une origine. Jésus dit qu'il est venu pour restaurer et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors dans certains cas, eh bien oui, il y a des guérisons miraculeuses. Moi je bénis Dieu pour les guérisons miraculeuses. J'ai vu des guérisons miraculeuses. J'ai vu une femme avec la jambe paralysée être guérie instantanément. C'était fantastique. On a prié pour un sourd, il a entendu au même moment. C'était merveilleux. Mais tous ne sont pas guéris comme ça. Certains ont besoin de se faire soigner. Certains vont être bénis, le Seigneur va les guérir, mais il va employer la médecine pour cela. Et bien de la même manière, quand ton cœur est brisé, Dieu peut faire un miracle. Mais très souvent, il va t'amener à cheminer et tu auras peut-être besoin de l'aide de quelqu'un pour guérir. Demander de l'aide demande beaucoup d'humilité. Demander de l'aide exige eh bien, de reconnaître sa situation. Mais lorsque tu demandes, j'aimerais te dire que Dieu vient te secourir. Et j'arrive là à ma troisième étape, le processus de destruction. Comment les choses se mettent-elles en place ? Excusez-moi, on m'avait dit de plus regarder ma montre. Je lisais le texte de Luc au chapitre 4 que nous avons lu tout à l'heure. Et alors que je lisais ce texte il y a quelques années déjà, au moment où je lis ce texte, Dieu me parle. Et Dieu me dit clairement, dans ce texte-là, tu découvriras tout le processus qui amène les gens à être oppressés, opprimés et à ne pas s'épanouir, alors que mon objectif à moi, c'est de les guérir et de les relever. Et j'ai, en lisant ce texte des Écritures, eh bien, découvert quatre étapes qui sont chronologiques, logiques, dans le processus de la destruction. Chacune d'entre elles est liée à la suivante et une conséquence de la précédente. Chacune d'entre elles est liée à la suivante et une conséquence de la précédente. Voyez-vous, lorsque Satan décide de briser un cœur, il ne va pas forcément attendre que vous ayez 50 ans pour cela. À partir de quel moment a-t-il voulu tuer Jésus ? Dès sa naissance. C'est dès sa naissance que l'objectif de Satan a été de détruire Jésus-Christ. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il n'attend pas que vous ayez 20 ans. Il n'attend pas que vous ayez 30 ans, forcément. C'est dans votre plus jeune âge déjà qu'il va attaquer le morceau pour vous mettre en miettes, de manière à ce que étant brisé au-dedans de vous-même, vous vous développiez, mais vous vous développiez de manière conditionnée. Conditionnée par quoi ? Par votre souffrance et par le système de pensée qui s'est érigé en vous. C'est dans le processus de destruction le premier point que je veux relever, les cœurs brisés. Différentes choses peuvent briser votre cœur. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure de traumatisme physique, il est dit « le traumatisme physique est provoqué par l'impact mécanique d'un agent extérieur ». Eh bien, nous avons souvent été brisés par un agent extérieur. Les cœurs ont souvent été brisés. Et lorsqu'ils ont été brisés, eh bien, c'est une tierce personne qui a été l'instrument pour vous briser. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché des autres est bien souvent la genèse de ma propre souffrance. Vous savez, lorsque nous péchons, nous croyons que finalement c'est qu'entre nous et Dieu. Mais j'aimerais te dire que chaque fois que tu pèches, tu fais souffrir un de tes semblables. Réfléchissez. Quand tu voles, tu dépouilles un de tes semblables et tu lui infliges une souffrance. Quand tu mens, tu trahis un de tes semblables et tu lui infliges une souffrance. Quand tu le trompes, tu infliges une souffrance à ton semblable. Quand tu le frappes, tu lui infliges une souffrance. Et je pourrais ainsi énumérer une longue liste. Messieurs, lorsque vous buvez et que vous êtes noyés dans l'alcool, lorsque vous rentrez le soir, vous infligez une souffrance à toute votre famille. Jeune homme, jeune fille, quand tu te drogues, j'aimerais te dire que tu infliges une souffrance à ton père, à ta mère et à tous ceux qui t'aiment. Quoi que tu fasses, tu vas infliger d'une manière ou d'une autre une souffrance à quelqu'un. Et si cette souffrance n'est pas guérie, alors le fruit de cette souffrance, c'est souvent la mort. Pas forcément la mort physique premièrement, mais la mort dans l'âme. Lorsque je réfléchissais sur les agents extérieurs et sur les instrumentations qui brisent les cœurs, l'une des plus fortes, des plus puissantes que j'ai découvertes et que vous connaissez, c'est la langue. La langue est sûrement l'instrument numéro un dans la destruction des cœurs. La langue, les mots. Écoutez ce que dit Jacques. Jacques dit, de même la langue est un petit membre. Vous êtes d'accord ? Si vous n'êtes pas sûr, montrez votre langue à votre voisin, dites-lui, est-ce que c'est vraiment petit, c'est grand, c'est... La langue. Alors il paraît que quand elle se relâche, elle est grande. Moi j'ai un homme que... je travaillais avec un gars, son père est allé chez le dentiste, et il l'a mal anesthésié la langue. Il était sorti, quand le dentiste est revenu, l'autre avait la langue ici. Alors là, il paraît que c'est... Mais face au reste du corps, c'est pas grand. C'est pas grand. Dominique, montre-moi la tienne. Je l'ai jamais vue. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Écoutez bien, elle est pleine d'un venin mortel. Mortel. Si nous mesurions plus ce terme mortel, nous réaliserions plus l'arme terrible que nous avons là, dans cette petite cavité qu'est la bouche. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est fou ce que de notre langue, parfois, peut sortir du poison. Et je ne vous prêche pas à vous, premièrement, je me prêche à moi. C'est fou ce que parfois nous pouvons avoir des mots qui tuent. Peut-être ce matin êtes-vous là et certaines paroles ont brisé votre cœur. Vous savez, les paroles, quand elles viennent, on ne voit pas l'effet qu'elles font. Si ce matin, allez Jean-Claude, viens voir. Viens chez moi Jean-Claude. Si ce matin, reste là, regarde-moi bien, bien en face, voilà, comme ça. Reste comme ça. Bon, si ce matin, je mets à Jean-Claude un coup de poing sur le nez, ça vous le voyez tous, vous êtes d'accord? Et vous direz, mais... Ah, Samuel, c'est un sale type, hein? Lui, il le saura aussi. Parce que lui, il va rentrer, il va ressembler à l'agent 205. 212. Excusez, je vois qu'il y a des spécialistes dans la salle, hein? C'est bien, hein? Ah, vous n'avez pas le temps de lire la Bible, mais l'agent 212, ah ah! Bien, on se verra à la sortie, hein? Ça, vous allez le voir! Mais si je disais simplement à Jean, permets-moi de te dire certaines choses. Hein. Si je lui dis, t'es qu'un idiot. Ah, ça, il va pas. Ça fait rire sa femme. Alors là. Bon, bouge-toi les oreilles. Hein. J'ai l'impression que ça te fait du bien, là. Hein. T'es qu'un idiot, il va ni avoir un œil au beurre noir, ni un pif comme ça. Mais en lui, il se passe quelque chose. Alors, j'ai pas trouvé de cœur humain. Donc, je me suis dit, je vais imaginer ça avec une pomme. Hein. Ça sera plus sympa. Je me suis dit, ça fera moins glauque. Tu peux me la tenir? Suivant les mots que vous dites, je vais vous en citer. T'es qu'un idiot... Et tu le resteras. Ça paraît rien, hein? Mais quand tu dis ça à un gamin de 3 ans, 4 ans, moi j'aimerais te dire que chez lui, l'idiot qu'il restera, ça s'imprime. T'es moche. Pour l'instant, je suis soft. Mais chaque fois, c'est un petit clou. Est-ce qu'il y a une caméra là qui peut venir plus... Comme ça, vous le voyez. C'est qu'un petit clou. Hop, t'es moche, tac, dedans. On va aller un peu plus loin. T'es moche, t'es grosse, tu bouffes comme un sanglier. Permettez-moi, attendez, vous me pardonnez, le Seigneur m'a déjà pardonné parce que je lui ai dit ce que j'allais vous dire. Et puis ensuite, pasteur, priez, ma fille est anorexique. Ah ouais? Ah ouais, elle est anorexique? Ah oui, et vous n'avez pas arrêté de lui dire, tu bouffes comme un sanglier? Et vous vous étonnez tout d'un coup que ça fait de l'effet là-dedans? Vous étonnez qu'elle se sent mal à l'aise, qu'elle n'a plus le courage de se déplacer? Et puis là, ça devient des coups plus grands. Et ça reste dedans. Et puis vous continuez. De toute façon, t'es qu'un minable. Finalement... T'es qu'un raté, nous on te voulait même pas. Si ta mère avait pu avorter, on l'aurait fait là. Et au petit garçon, vous lui dites, de toute manière, t'es comme ton père. C'était un nul, et toi, t'es un nul. Oh là. Un jour, il vient à Jésus. Tu vois, il vient à Jésus avec le cœur comme ça. Et tout ça, c'est dedans. Oui, il se donne au Seigneur. Il lui donne sa vie. T'es beau. T'es pas moche. Et je t'aime de tout mon cœur. C'est avant que tu repartes. Le problème, c'est que tout ça, c'est dedans. Et quand vous venez à Jésus, il va falloir se débarrasser de tout ça. Parce que vous ne pourrez pas guérir en ayant tout ça dans votre cœur. Et peut-être que vous êtes là ce matin et vous dites, mais moi, j'ai le sentiment d'avoir le cœur comme cette pomme. Et peut-être que pendant que je parle, vous reviennent des souvenirs. Évidemment, il se peut que certains vous aient dit un mot en blaguant, d'accord ? Parfois, certaines blagues peuvent faire du mal. D'autres fois, c'est vraiment, vous savez d'où elle vient la blague, et puis vous en faites pas de trop, d'accord ? J'ai mon fils qui m'a fait une blague hier. Ouais, Josué. Connaissez Josué ? Non, vous ne connaissez pas Josué ? Alors, oui, Josué, je vous donne juste une petite approche. Un jour, il m'appelle, il dit, ah, papa, du vieux Coca-Cola, ça sent pas bon le vieux Coca-Cola. Il avait une bouteille de Coca, je dis, ah bon, je savais pas que c'est en vieillissant, ça sent mauvais. Il dit, ah, si, ah, tu veux sentir? Je dis, bah ouais, hein, donne. J'ouvre, ah! Vous savez ce qu'il avait fait? Il avait pété dans la bouteille. Et le premier qui avait le nez dedans, c'est moi. À plein tube. Mais attendez, il est pas à court d'idées. Je pense que le summum, je l'ai atteint hier. Il vient me voir, il me dit, papa, il faut que j'aie une photo de toi, c'est pour le mariage de Sarah, on fait un truc. Je dis, bon, vas-y. Il me photographie avec le numérique. Et quand il prend le numérique, il le regarde, il dit, oh, t'as vraiment une tête de cake, hein? Alors je dis, attends, qu'est-ce que t'es... Bon, donne-moi l'appareil. Il dit, tu veux voir? Bah, je dis, ouais, donne-moi l'appareil. Je regarde l'appareil, je dis, j'ai failli prendre l'appareil si c'est pas moi qui l'avais payé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a été aux toilettes, il a photographié le fond des toilettes. Ça vous fait une drôle d'impression, hein? Bon, mais c'est Josué. Donc je sais d'où ça vient, et pour me rassurer, je suis quand même allé me voir devant la glace. Mais je dois dire, ça m'a pas blessé, ça m'a amusé. Cependant, parfois, à force qu'on nous dise « mais t'es grosse », au début ça fait rire, au bout d'un moment, beaucoup moins, et au bout d'un moment, ça fait mal. C'est peut-être votre professeur qui vous a ridiculisé devant tout le monde. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai vues pleurer en me disant « Pasteur, ma vie a été brisée depuis le cours élémentaire. » Chaque fois que l'instituteur voulait se moquer de quelqu'un, c'est moi qui l'appelais parce que j'étais gauche, j'étais incapable de faire les calculs et puis je sortais toujours des bêtises. J'étais là au tableau et toute la classe riait. Et je l'ai haï, cet instituteur. Et j'ai haï l'école et j'ai haï les études. Certaines personnes n'ont pas fait d'études, non pas parce qu'elles ne sont pas capables, non pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, elles peuvent être très intelligentes. Mais les blessures en elles les ont privées, comme l'handicapé, d'une certaine de leurs possibilités. Écoutez bien, peut-être avez-vous été victime du racisme, des insultes racistes. Ah, évidemment, on se bat contre le racisme. Mais quand vous prenez une insulte raciste, je vais vous dire, vous êtes seul à la prendre. Elle fait mal. Vous allez à l'école comme tous les autres, vous apprenez comme tous les autres, vous faites les mêmes efforts comme tous les autres, vos parents payent les impôts en France comme les autres, et vous n'êtes pas traité de la même manière. Vous êtes dans un pays où on vous rejette, votre pays ne vous connaît pas. Des blessures profondes, profondes quant à la couleur, quant à l'apparence. Jésus dit une chose importante. Dans Matthieu 5, verset 22, il dit, « Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme, j'aimerais vraiment qu'on soit attentif à cette parole, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère « imbécile » mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Hello ? Cette parole ne vient pas de moi. Cette parole, c'est Jésus que nous avons adoré ce matin qui l'a dite. Il dit « imbécile » devait être jugé par le conseil supérieur. Mais celui qui dit « idiot » à quelqu'un mérite l'enfer. Pourquoi croyez-vous que Jésus a été aussi exigeant que cela ? Parce que Jésus sait très bien quels effets font les mots que nous prononçons. Ce matin, vous allez me dire, pasteur, j'ai jamais tué personne. Ah oui, oui, évidemment, vous n'avez jamais tiré avec un pistolet sur quelqu'un. Mais la puissance des mots que vous avez utilisés a pu tuer quelqu'un. Et il y a peut-être quelqu'un qui vit complètement écrasé dans la dépression parce que vous, il y a des années, vous l'avez assaini de mots qui ont été dans sa vie comme des balles qui transpercent un cœur. C'est pourquoi Jésus est aussi exigeant. C'est pourquoi Jésus, eh bien, traite celui qui utilise certains mots comme une arme en lui disant, mais il mérite la gêne comme l'assassin. Et il le met au même niveau que le meurtrier. Les meurtriers n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais nous, le meurtre, on le résume uniquement au meurtre physique, mais tous les meurtres psychiques, tous les meurtres de l'âme, tous les meurtres du cœur, qu'on ne verra peut-être jamais, un jour, nous rendrons compte. Mes amis, ce matin, je voudrais que ce message ne soit pas simplement une aide pour ceux qui ont été blessés. Je souhaiterais qu'il soit peut-être préventif pour ceux qui seraient tentés à utiliser certaines voies pour oppresser d'autres. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mange le fruit. » Proverbes 12, verset 18. « Celui qui bavarde à la légère blesse comme une épée. La langue des sages guéris. » Ma prière, c'est élève au milieu de nous des langues de sages afin que la guérison abonde dans ton peuple. Vous avez été brisés non seulement par les paroles d'autrui, mais les actes d'autrui. Cependant, il me semble que le temps est passé. Je ne vais pas continuer mon message. Je vais m'arrêter. J'aimerais que nous fermions nos yeux un instant. Et la prochaine fois que je prêcherai, je vous donnerai la suite. Mais je voudrais dire en conclusion ce matin, pour ceux qui peut-être ne seront pas là lorsque je reprêcherai dessus, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je le disais récemment ici, un mardi soir, le mot traduit par fatigué est étymologiquement parent de marteau et de coup. Il désigne en premier lieu la fatigue physique et morale résultant d'un coup reçu. Certains auteurs grecs l'emploient dans le sens de dépression. Il signifie aussi épuisé, las et abattu. Chers amis, ce matin, nous sommes là et vous êtes peut-être de ceux qui sont fatigués. De ceux qui ont pris des coups de marteau. De ceux qui ont pris des meurtrissures dans le cœur. Des bleus dans le cœur. Des hommes et des femmes qui sont comme ma pomme ici. J'aimerais ce matin vous dire que vous n'êtes pas condamné à échouer et à subir toute votre vie les blessures que vous avez reçues dans votre passé, mais vous êtes appelé à guérir et vaincre. Jésus vous appelle, il veut vous guérir et vous vaincrez. Pendant que mon frère se met au clavier, pourrais-je nous demander de nous lever ? Pourrions-nous fermer nos yeux dans le recueillement un instant et pourrais-je demander à ceux qui savent que Dieu leur a parlé de commencer à lui ouvrir leur cœur un seul instant. Mon frère va jouer ce cantique qui dit « Je suis celui qui te guérit », mais ce matin, ce n'est pas le corps physique uniquement. « Je suis celui qui te guérit ». Ton cœur est peut-être comme cette pomme. C'est des mots dans ton enfance qui t'ont fait du mal. C'est les mots de ton mari qui t'ont fait du mal. Et j'ai moi-même blessé parfois mon épouse. C'est les mots de ton père, de ta mère, qui parfois croyant bien faire, « Oh, je ne voudrais pas qu'accabler les parents ce matin. » Quand un enfant mange trop, on voudrait tellement lui dire, « Arrête, tu vas devoir ensuite faire beaucoup d'efforts. » Mais nous sommes tellement violents dans les mots que nous employons. Un traumatisme, un trauma, c'est l'intervention d'un agent extérieur. Et ce matin, il y a des agents extérieurs qui ont pu vous briser. J'aimerais que vous puissiez déjà maintenant, avant que je continue ce message, commencer à prier en disant, « Oh Dieu, aide-moi non seulement à guérir, aide-moi non seulement à parler de ma souffrance, aide-moi non seulement à l'exprimer, cette souffrance, mais aide-moi à cheminer pour que je puisse pardonner celui qui m'a fait souffrir. » Priez dans votre cœur.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.